C'est l'une des expositions phares de la saison qu'on vous propose de découvrir à présent, celle que le fonds Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau consacrent à Andy Warhol. Un artiste très complet, comme on va pouvoir le constater en suivant notre guide. Elle est directrice exécutive du FHEL, elle a participé à la construction de l'exposition, c'est Pauline Ignacio. Merci à Méline pour le montage de cette visite audio et à Aïdé Gomez pour son assistance. C'est parti.
Alors c'est une exposition qui prend racine il y a déjà un peu plus de 2 ans, c'est plus de 2 ans de travail, et en fait c'est le fruit d'une collaboration exceptionnelle avec le musée Andy Warhol de Pittsburgh, qui a puisé dans son fonds de près de 13 000 travaux d'Andy Warhol pour nous sortir les près de 200 pièces qu'il nous prête pour l'exposition, et ça a été vraiment une collaboration incroyable, alors tant du point de vue de sa rareté, puisque des expositions Warhol en France ces dernières années on n'en a pas vu beaucoup, notamment rétrospective comme celle de Landerneau, mais aussi exceptionnelle par sa forme et son contenu, puisque vraiment Pittsburgh et Landerneau, c'est une rencontre qui a extrêmement bien marché.
Et en fait, ce n'est pas un musée que vous connaissiez avant, c'est un musée que vous avez contacté pour cette expo.
On n'avait jamais travaillé avec eux par le passé, et effectivement, on les a contactés pour cette exposition. C'est le premier musée monographique au monde, créé dans les années 90, consacré donc à l'œuvre d'Andy Warhol. Et c'est les plus grands connaisseurs aujourd'hui du fait de leur collection. Comme je le disais tout à l'heure, 13 000 œuvres, c'est vraiment une collection qui est exceptionnelle. Et Amber Morgan, qui est la commissaire de l'exposition de Landerneau, c'est la directrice des collections et des expositions du musée de Pittsburgh, et elle connaît comme sa poche toute la collection, elle sait faire les liens entre les œuvres, elle connaît précisément leur contexte de réalisation. Donc pour nous, lui confier le commissariat de l'exposition, c'était s'assurer d'avoir cet œil aiguisé sur le travail de Warhol.
Alors, parlez-nous du personnage, puisqu'on est dans la salle justement qui revient sur lui, je pense.
Oui, pour nous, c'était important d'entrer dans l'exposition sur le personnage de Warhol et de provoquer ce face-à-face, cette rencontre entre le visiteur et ce personnage. Et ce qui est important, je crois, dans cette première section, mais dans l'exposition en général, c'est qu'on a cherché vraiment à montrer Andrew Warhola derrière Andy Warhol. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, parce que quand on dit Warhol aujourd'hui, ça évoque dans les imaginaires beaucoup d'images un peu d'épinal, c'est-à-dire les boîtes de soupe Campbell, les Brio Box, toutes ces choses-là qu'on a vues dans les livres d'histoire notamment.
Qu'on voit dans l'expo quand même.
Et qu'on voit dans l'expo. Mais par contre, c'est pas seulement ça. Et nous, on s'est vraiment attachés avec Amber justement à aller chercher derrière le personnage, derrière ce que tout le monde connaît. Et on a notamment mis en avant des œuvres qui sont très très rarement montrées. C'est plus de 200 œuvres dans l'exposition. Sur ces 200 œuvres, seulement 9 ont déjà été montrées en France.
Et notamment ces œuvres de jeunesse. Alors juste avant de... Là, c'est en fait le... Il y a une petite galerie de portraits en tout premier. C'est uniquement lui, c'est ça ? C'est ses multiples visages ?
Oui, c'est ça. Alors là, c'est une série de Polaroids qu'il a réalisé lui-même, donc des autoportraits sous différentes facettes. Et effectivement, ça fait partie du personnage. Andy Warhol, c'est un peu le précurseur du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on est génération réseaux sociaux, on fait beaucoup de selfies. Mais en fait, Warhol, il a fait ça avant nous, dès les années 70, les années 80. C'est le performeur de lui-même, c'est celui qui se met en avant, qui s'auto-portraiture. Et on en voit beaucoup d'exemples très différents, avec toujours ces filtres de couleurs qui permettent de mettre un peu à distance par rapport à l'image.
Alors là, c'est sa famille, c'est ça ?
Oui. C'est Andrew Warhol avant Andy Warhol, quoi. Donc c'est montrer vraiment son parcours. Il y a des photos de lui enfant avec sa mère. Ça permet tout de suite de montrer aussi que sa maman est un élément important dans son histoire personnelle. Elle l'a accompagné toute sa vie. Ils ont collaboré sur certaines œuvres. Et elle a vécu avec lui de 52 à 71 chez lui à New York. Donc il y a vraiment une proximité réelle et importante. Et c'est vraiment un pilier de sa vie. Il ne serait sans doute pas devenu celui qu'il est devenu si elle n'avait pas été là.
Alors, en quoi consistent ces œuvres de jeunesse, justement, celles que vous présentez, comment vous avez choisi ?
Là, pour nous, ce qui était important, c'était de montrer au public la diversité de son travail, et c'était de montrer comment il est devenu le Andy Warhol qu'on connaît. Et Andy Warhol, il a fait des études de graphiste, et il est devenu publicitaire, dessinateur publicitaire, très jeune, dès les années 50. En fait, quand il quitte Pittsburgh, qui est sa ville natale, pour aller s'installer à New York parce qu'il est en quête de gloire, de reconnaissance, d'argent, de paillettes. Donc il monte à New York, comme on dit, et à ce moment-là... Il est dessinateur de mode, il est dessinateur pour des marques. Donc il a notamment collaboré avec un maroquinier qui s'appelle Fleming Joff. Donc là, dans l'exposition, on voit par exemple un auvent qu'il a réalisé pour le magasin, la boutique Fleming Joff, et qui était présenté dans la rue à New York. Et donc à ce moment-là, lui, il fait des aquarelles, il fait des cartes de vœux, il fait des dessins publicitaires, il travaille pour Vogue, il travaille pour Tiffany. Et c'est comme ça qu'il commence, en fait. C'est comme ça qu'il est reconnu, découvert, et on découvre des dessins que moi je trouve assez émouvants, puisque c'est vraiment les débuts de Warhol. Et donc on le voit, il dessine des chaussures, il dessine des sacs, il dessine des silhouettes, et c'est comme ça qu'il commence sa carrière, et c'est comme ça qu'il est découvert.
Il y a très peu de couleurs là pour le coup.
Là c'est vraiment du dessin, donc effectivement il y a peu de couleurs, on est sur beaucoup de noir et blanc, quoique je parlais du auvent à l'instant qui est d'un jaune assez flashy. On a aussi un panneau de bois qui a été utilisé pour une boutique, c'est une vitrine de boutique dans laquelle il y a divers petits flacons de parfums, ce qui est déjà assez précurseur, qui nous rappelle des vitrines qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'est très contemporain, et dans laquelle on retrouve... une explosion de couleurs, pour le coup.
Comment est-ce que vous avez découpé l'exposition ensuite ? Enfin, là, pour l'instant, on est dans la chronologie, mais...
C'est une exposition qui est à la fois chronologique et thématique. On commence avec vraiment cette entrée, cette rencontre avec Warhol. Donc là, on a des œuvres de différentes périodes, mais ça permet vraiment de prendre un peu racine dans son histoire et de se confronter à ce personnage. Et puis ensuite, c'était important de continuer dans la chronologie en évoquant ses travaux de jeunesse avant d'arriver vraiment sur tout le travail qu'il a mené autour de la publicité, qu'on connaît mieux, dans lequel là, on a plutôt mélangé les décennies. Ça va des années 60 aux années 80. On revient ensuite sur les portraits, c'est pareil, c'est un mélange de temporalité, et on termine sur une section consacrée au mythe américain, et qui là montre des œuvres plus tardives, milieu des années 60 jusqu'aux années 80 également.
Ouais. Alors, allons à la publicité, puisque c'est quand même le grand truc. Est-ce qu'il était précurseur sur le fait de faire entrer la publicité dans l'art ou pas ? D'autres y avaient pensé avant lui ?
Alors Andy Warhol, c'est un des pères de ce qu'on appelle le pop art. Pop art qui est né, qui est un mouvement artistique, qui est né d'abord au Royaume-Uni, mais qui s'est très vite développé aux États-Unis. Et dans le pop de pop art, ça veut dire populaire. Et vraiment, ce qui est important pour les artistes du pop art à ce moment-là, c'est de démocratiser l'art, de le rendre accessible à tous, de le faire rentrer dans les foyers. Faut pas oublier, les mouvements artistiques, ils interviennent toujours dans un contexte. Et là, le pop art, c'est après l'expressionnisme abstrait. L'expressionnisme abstrait, c'est par exemple Jackson Pollock, qu'on connaît pour ses drippings. Donc il prenait des pinceaux et puis il jetait la peinture sur la toile. C'était considéré comme un art assez intellectuel, assez élitiste, et le pop art, il vient rompre avec ça. Et donc pour Warhol et pour ses contemporains du pop art, c'est important de donner accès à tout un chacun à l'art. Et Warhol, il le fait par la publicité. Il prend par exemple à l'époque c'est pas des canettes, c'est des bouteilles. Une bouteille de Coca-Cola, et il dit en fait, ce qui est fascinant avec le Coca-Cola, c'est que je suis le président, je bois du Coca, je suis Liz Taylor, je bois du Coca, je suis Andy Warhol, je bois du Coca, mais je suis le clochard du coin, je bois du Coca, et c'est pas parce que je suis le clochard du coin que mon Coca il est moins bon que celui du président ou de Liz Taylor. Et finalement, pour lui, c'est ça qui est important. Et c'est pareil quand il utilise les boîtes de soupe Campbell comme motif, il dit cette boîte de soupe, moi je l'ai dans mon placard, mais tous les Américains l'ont dans leur placard, et c'est ça pour lui qui est vraiment centrale dans son action. Donc oui, il a vraiment contribué à amener la publicité dans l'art et à brouiller les frontières entre le banal et ce qui constitue les beaux-arts.
Mais la standardisation n'est pas un problème pour lui alors ?
Au contraire, lui, il est dans la recherche de la sérialité. D'ailleurs, dans sa technique, il tend vraiment à ça. Il utilise la sérigraphie qui permet la reproduction d'images en série. Lui, il a eu beaucoup de petites phrases célèbres. Il avait vraiment beaucoup de sorties, et il a notamment dit qu'il aurait voulu être une machine. Et donc, il va chercher à reproduire cette sérialité, ce côté industriel du magasin. Quand il réalise la première série des soupes Campbell, c'est 32 soupes qu'il a peint à la main et au pochoir. Et quand il les montre dans la galerie pour la première fois, il les expose un peu comme si elles étaient sur des étagères, comme dans un magasin. Et d'ailleurs, il dit que quand on y pense, les grands magasins sont des sortes de musées. Pour lui, c'est vraiment très important d'utiliser aussi ces codes-là.
Pour les soupes Campbell, il est l'auteur de la sérialisation, entre guillemets, mais il n'est pas l'auteur de l'étiquette, si ?
Non, il n'est pas l'auteur de l'étiquette. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Warhol, il a vraiment contribué à rendre familier des designs de marques. Dans la salle consacrée aux publicités, on voit la pomme de Apple qu'on connaît bien, on voit des bouteilles de Perrier qui sont dans notre imaginaire aujourd'hui, et on en oublie les auteurs des designs, vraiment, des étiquettes ou des bouteilles. Donc pour Campbell, c'est pas lui qui est le designer de l'étiquette. Par contre, Campbell a aujourd'hui toujours le même design. Ils ont vu dans cette publicité, en quelque sorte, l'occasion de vraiment, à travers le monde, rester célèbre. Et donc depuis les années 50 ou 60, Campbell a toujours les mêmes étiquettes sur les boîtes de soupe.
Alors là, on est dans la salle, justement, des étiquettes publicitaires, si on peut dire ça comme ça. Enfin, quelles sont les techniques qu'il a utilisées, justement ?
Alors, Andy Warhol, c'est avant tout de la peinture, mais c'est aussi la sérigraphie. Et lui, il utilise, il détourne un petit peu l'usage de la sérigraphie. La sérigraphie, à l'origine, c'est un cadre et un écran de sérigraphie et autant de couches d'encre qu'il y a de couleurs. Donc, autant d'écrans de sérigraphie qu'il y a de couleurs. Donc, s'il y a du rose, une couche de rose. S'il y a du rouge, une couche de rouge. Et comme ça, jusqu'à réaliser l'œuvre en entier. Lui, il ne va pas utiliser de l'encre ou pas que. Il utilise aussi de la peinture. Et le cadre, ça lui permet cette sorte de mécanisation qu'il recherche, ça lui permet d'appliquer les cadres sur les toiles et donc d'avoir ce cadre comme support. Mais il n'utilise pas, en tout cas pour les marques, il n'utilise pas que cette technique puisqu'on a aussi des sculptures dans cette salle, les sculptures pour les boîtes d'éponge à récurer Brio ou pour ces cartons de Del Monte, Heinz, Campbell qui reprennent en fait, c'est des imitations de cartons mais c'est du bois, c'est du bois peint. Donc c'est vraiment
il a pris les vrais cartons et il les a pas juste posés là, quoi.
Pas du tout, c'est vraiment des sculptures c'est plus vrai que nature, on se laisse prendre et donc voilà, Warhol c'est essentiellement de la peinture, de la sérigraphie, de la sculpture, mais on le verra plus tard dans l'exposition, c'est aussi des films parce que quand il est à la Factory qui est son atelier à New York, il réalise des films, notamment ce qu'on appelle les screen tests, et donc les screen tests c'est une caméra qu'il place dans une salle et il invite les gens qui sont dans la Factory, donc c'est aussi bien des gens qui passent dans la rue que des célébrités. La Factory, à ce moment-là, elle est ouverte à tout le monde. Et donc, il fait se positionner les personnes qui le souhaitent derrière la caméra. Le but du jeu, c'est qu'il bouge le moins pendant 3 minutes, qu'il ne cligne pas des yeux, qu'il fasse le moins de mouvements possible. Et ensuite, il ralentit ses images pour en faire des petits films de 4 minutes 30. Et on voit plusieurs personnages. Dans l'exposition, on montre Edith Sedgwick, notamment, qui a été une de ses muses. On montre aussi Marcel Duchamp. Et on avait les publicités pour Coca-Cola avec Lou Reed et Nico qui ont été réalisées aussi sur le principe du screen test.
Ah oui, alors justement, on en arrive à... Alors, il n'y a pas de son dans l'exposition. Néanmoins, il y a un rapport quand même entre Andy Warhol et le son. Et notamment, enfin, on le voit visuellement avec des pochettes iconiques, mais quel était son rapport avec la musique ou le son ?
Oui, avec la musique plus qu'avec le son. Alors Andy Warhol, c'est aussi un pur produit de son époque. Il est très actuel, mais il est aussi très ancré dans sa génération et dans son époque. Donc c'est les années 70 et 80 essentiellement. Et à ce moment-là, lui, à la Factory, il rencontre énormément de célébrités, et notamment des chanteurs. Et il est aussi précurseur, puisque à New York, il rencontre le groupe notamment du Velvet Underground. À ce moment-là, c'est des chansons qui sont un peu... marginalisé puisque ça parle de drogue, ça parle de prostitution, donc ce groupe a du mal à éclore et a du mal à trouver des financeurs et donc Warhol va devenir producteur et aider à produire l'album iconique des Velvet Underground avec La Banane, dont pour le coup là il dessine le design et donc il baigne vraiment tout le temps dans ce monde là il rencontre Mick Jagger, c'est lui qui fait la couverture de Sticky Fingers, l'album des Stones, donc vraiment il est baigné dans ce monde musical underground des années 70-80.
Ouais, qu'est-ce qu'il fait comme travail avec les musiciens, sinon quand il ne fait pas des pochettes d'albums ?
Ben, par exemple, il fait leurs portraits. Et là, on arrive dans la section qui est consacrée aux portraits. Ce qui est intéressant dans cette section, c'est qu'on montre à la fois le produit fini, puisqu'on a différents portraits de célébrités qui sont accrochés, mais on montre aussi la source d'inspiration et le point de départ du processus. Et donc pour ça, il faut se placer devant le mur des Polaroids, qui est juste par là. Et donc là, sur ce mur, on voit un accrochage de différents Polaroids. Ça nous permet d'expliquer la manière dont Andy Warhol travaillait. Il réalisait les portraits des célébrités qui avaient demandé à être portraiturés, parce que souvent, c'est des portraits de commande. À ce moment-là, il est suffisamment célèbre pour que les gens viennent à lui. Et donc, parfois, il fait des dizaines et des dizaines de tirages photos jusqu'à ce que le résultat lui convienne. Et le Polaroid, c'est son point de départ. À partir de là, il réalise soit des projections agrandissement sur toile, soit il travaille avec de la peinture photosensible sur toile également. Et donc, il réalise des portraits. Et donc là, dans cette galerie de photos, bah, c'est assez amusant puisqu'on peut voir à la fois les personnes qui sont représentées dans certains des portraits qui sont autour de nous, mais on voit aussi d'autres personnes dont les portraits en peinture ne sont pas ici, mais dont on sait qu'il a ensuite fait le portrait. Donc on voit Mick Jagger, on voit Debbie Harry du groupe Blondie, on voit vraiment des personnes d'horizons d'horizons très différents et avec des métiers aussi différents. Il y a Jean-Michel Basquiat, il y a Arnold Schwarzenegger, il y a Caroline de Monaco, Keith Haring.
C'est quand même tous ou presque des artistes, non ? Enfin, ils ne faisaient pas des portraits de grands patrons ou de...
Ils faisaient des portraits sur commande, donc là, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup des artistes, mais finalement, à ce moment-là, étant donné que c'était de la commande, il réalisait les portraits des gens qui venaient lui commander des portraits. Mais là, on a rassemblé beaucoup d'artistes, c'est vrai que c'est essentiellement des artistes. Alors, on a aussi Pelé, par exemple, qui est un footballeur, mais c'est des célébrités, oui.
Et alors après, une fois qu'il a fait son Polaroid, quelle est la technique pour le portrait ? Enfin, en fait, il y a toujours deux représentations, comment ça se passe ?
C'est pas toujours deux, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Et ensuite, c'est cette technique de la sérigraphie. Donc soit il utilise un projecteur pour projeter l'image de départ sur la toile pour pouvoir l'agrandir. Et donc c'est toujours la sérigraphie, donc il travaille toujours avec un cadre, avec un écran et avec ses couleurs en peinture. Soit s'il ne projette pas, il peut utiliser de la peinture photosensible qu'il applique sur la toile pour révéler en fait en négatif l'image du Polaroid. Après en agrandissement toujours. Mais par contre, c'est toujours de la sérigraphie et il y a toujours cette idée de sérialité. Et lui, c'est vraiment ce qui l'intéresse. On l'a vu déjà dans la partie consacrée aux produits, aux objets de consommation courante. Mais finalement, il fait aussi des personnes, des célébrités, des objets parce qu'il les représente de la même façon qu'il a représenté les Campbell Soup avec ce processus un peu industriel de la sérialité.
Non, vous n'êtes pas unique. Et là, par exemple, on est devant un portrait double. C'est l'ensemble de l'œuvre ou est-ce qu'il en existe d'autres ? Il en a fait 10 de cette personne et on n'en présente ici que 2 ?
Ça va dépendre vraiment des figures. Mais ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est qu'au-delà du fait que chaque personnage est représenté en double, la technique est différente. Et donc, par exemple, on voit Denis Hopper avec un filtre de couleur, on voit Sakamoto avec des formes géométriques, on voit Dolly Parton avec ses cheveux et son visage de couleurs différentes. À chaque fois qu'il peint une personne et qu'il produit ses séries de portraits, il utilise des techniques différentes et on pourrait embrasser d'un seul regard cette salle en disant c'est des séries de portraits. Mais en fait, si on s'y attarde un peu plus et si on regarde chaque diptyque, puisque là on les a présentés deux par deux pour ce qu'ils sont, bah, on voit bien que d'un portrait à l'autre, d'une personne à l'autre, il y a vraiment un traitement qui est différent en peinture.
Et alors justement, on arrive, enfin c'est le portrait, c'est sans doute l'œuvre de Warhol avec les soupes Campbell la plus connue, je pense, c'est le portrait de Marie-Laye, mais il en existe d'autres ou il n'y en a que deux ?
Non, il en existe d'autres et il existe différents formats. Il y a notamment une très grande toile qui représente 10 Marilyn en noir et blanc. Donc il y en a plusieurs et il en a fait plusieurs en peinture, il en a fait en sérigraphie. Donc il y a différentes techniques, il y en a plusieurs. Mais par contre, c'est vrai que c'est iconique et pour nous, c'est aussi un moyen de passer un peu de la salle des portraits à la salle des mythes, parce que là, on présente Marilyn et Jackie Kennedy l'une à côté de l'autre et ça permet d'introduire dans la narration autour du travail de Warhol la question de la mort. Puisqu'en fait, quand il représente Marilyn ou quand il représente Jackie, l'ombre de la mort plane sur ces deux icônes. Marilyn, il ne la peint qu'après sa mort. Elle meurt en 1962. Et là où pour les portraits dont on a parlé précédemment, il utilise des photographies qu'il prend lui-même, pour Marilyn, comme pour Jackie Kennedy, il utilise des coupures de presse. Alors en l'occurrence, pour Marilyn, c'est une image tirée du film Niagara.
Celui où on voit sa robe qui se soulève au-dessus de la bouche des métros.
Donc il utilise une image commerciale de ce film et donc on la voit, elle est complètement figée. Alors en plus, vu qu'il la décline en plusieurs couleurs, ça accentue cet effet-là. Elle est complètement figée, cette image est complètement figée et ça fige Marilyn dans un état qui est celui... C'est l'état dans lequel on a bien aimé la voir, c'est-à-dire elle est glamour, c'est une icône, elle est célébrée, mais c'est aussi le revers, c'est-à-dire c'est ce qui a consumé Marilyn, la célébrité, c'est le public l'a consommé et c'est ce qui l'a mené en quelque sorte à sa perte. Et c'est ça que Warhol veut fixer dans cette image sur papier glacé, que tout le monde iconise, que tout le monde a en tête. Mais c'est vraiment la dualité qu'il cherche à exprimer. C'est à la fois l'iconisation, la starification et en même temps la détresse de quelqu'un qui n'était perçu que pour sa célébrité. Pour Jackie Kennedy, c'est à la fois la même chose et différent. C'est différent parce que le contexte n'est pas le même. Là, lui, ce qu'il traite, c'est l'attentat. L'attentat contre John Fitzgerald Kennedy. Et donc on voit, c'est un quadriptyque, c'est quatre tableaux, mais qu'on peut séparer en deux. À gauche, deux tableaux qui nous présentent Jackie avant l'attentat, et à droite, à l'enterrement. Et donc on voit bien que quelque chose s'est passé. Elle n'a plus le même visage, c'est plus la même expression, c'est plus la même image. Et donc là, vraiment, ce que Warhol cherchait à montrer, c'est ça. C'est que finalement, l'image en dit beaucoup et que la mort, là, est intervenue. Et c'était aussi un moyen de faire un lien entre les portraits et les mythes, puisque la section suivante nous parle du mythe américain. Et Marilyn, comme Jackie, sont deux mythes de l'Amérique.
Et là, la personne.
C'est Warhol.
C'est lui la phrase sur les 15 minutes de.
Oui,
voilà. Il a dit quelque chose sur la célébrité.
Oui, Warhol. Donc, il est à l'origine de ce quart d'heure de gloire qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais oui, il avait eu cette sorte de prémonition en disant à l'avenir, tout le monde pourra avoir son quart d'heure de gloire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les façons, les moyens qu'on a de se présenter soi-même, c'est vrai. Et Mario Rossero, qui est le directeur du musée Warhol de Pittsburgh et qui était avec nous pour l'inauguration de l'expo, disait que, en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est extrêmement warholien. Il est mort en 87, donc ça fait déjà plusieurs décennies, mais malgré tout, son héritage reste très, très fort et très, très prégnant dans la société dans laquelle on vit.
Est-ce qu'il y avait des prises de position politiques officielles ? Enfin, quelles étaient ces prises de position, s'il y en avait ?
Il n'avait pas vraiment de prise de position officielle, et d'ailleurs c'est ce qui est un peu ambivalent dans le travail de Warhol, c'est qu'on ne sait jamais vraiment comment le positionner. C'est à la fois lui qui glorifie l'Amérique, la société de consommation, et en même temps on peut toujours y voir une sorte de cynisme, peut-être de critique, et donc c'est difficile de savoir exactement comment il se positionne. Après, ici on est dans une section qui est consacrée au mythe américain, et dans laquelle quand même on commence à voir poindre au moins une remise en question, sinon une critique, au moins une remise en question, avec notamment, il a fait le portrait de l'Amérique en utilisant des symboles qui sont très très simples, par exemple le dollar, qui est la réduction à sa plus petite expression de l'image qu'il a, lui, de l'Amérique à ce moment-là, mais ça permet d'en savoir un peu plus sur sa vision de ce rêve américain.
Et alors, quels sont les autres mythes qui sont traités dans cette salle, en tout cas ?
Alors on a cette grande toile là de camouflage qui fait 11 mètres et qui est la répétition presque à l'infini, en tout cas sur cette toile, de ce motif camouflage. Le camouflage, c'est la guerre. Donc c'est aussi une manière en quelque sorte de pointer du doigt ce lien entre les États-Unis et la guerre. Et puis c'est aussi encore un petit pied de nez à l'expressionnisme abstrait. Enfin, en tout cas, il s'inscrit ici dans l'héritage de la peinture américaine, puisque les grands formats, c'est très, très symbolique de l'expressionnisme abstrait. Et puis, on a cette répétition du motif, ce geste qui est à la fois très, 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 très warholien. Donc, cette toile, le camouflage, elle est très importante et elle est assez méconnue. C'est pas ce à quoi on pense immédiatement quand on parle de Warhol, mais par contre, c'est très important et ça permet de faire ces liens. On a aussi, évidemment, ce dollar sign qui, comme je le disais précédemment, fait référence au lien immédiat que Warhol fait entre l'Amérique et l'argent. On voit aussi juste à côté un dessin qui représente Donald, qui est un mythe de l'Amérique déjà à ce moment-là. Et dans les yeux,
Walt Disney en tout cas.
Oui, Walt Disney, mais qui a permis de faire connaître Donald, Mickey et consorts. Et donc on voit que là, Donald, dans les yeux, il a deux drapeaux américains. Et c'est là aussi un petit pied de nez, puisqu'on est plus habitué à le voir avec des dollars dans les yeux. Et là, on voit qu'immédiatement, le parallèle est fait entre Amérique, drapeau américain et symbole du dollar.
Selon vous, comment Andy Warhol essaie de déconstruire un peu du coup le mythe américain, le dream américain au vu du public ?
Alors, je pense pas qu'il cherche forcément à le déconstruire, par contre je pense qu'il cherche à le nuancer, et que, comme je le disais, il va à la fois porter au nu la société de consommation, cette sérialité de l'industrie. Et en même temps, bah, il vient nous dire, par exemple, avec cette série des désastres, regardez ce qu'on est en train de devenir. Aujourd'hui, nous, on est baignés par l'info en continu, par les réseaux sociaux, on voit des images très choquantes. Et finalement, lui, il était aussi précurseur de ça. Il a dit dans une interview, à force d'être confronté à des images horribles, bah on finit par ne plus rien ressentir du tout. Et c'était déjà le cas là dans les années 60-70, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et dire ça, bah c'est aussi dire attention, le rêve américain, c'est pas que les paillettes, c'est pas que cette glamourisation à l'extrême, c'est aussi des tendances bah, presque au voyeurisme. Là, on a des images de personnes qui sont écrasées sous des voitures après un accident. On a deux
images. C'est des vraies images ou c'est la reconstitution?
Non, c'est des vraies images, des images d'enquête qui parfois même sont parus dans des journaux dans les années 60. Donc c'est des vraies images, mais il nous met en garde contre justement bah, cette banalisation de l'horreur qui est aussi entraînée par bah, tous les systèmes de cette société américaine, de cette société de consommation. Donc je dirais pas qu'il déconstruit, par contre il cherche à nuancer et à mettre en garde.
Et cette série, c'est pareil, c'est la série des mythes, c'est les portraits des mythes, c'est ça, l'oncle Sam, Mickey
Oui, exactement. Donc là, c'est un condensé en très peu de visages de ce qu'est l'Amérique selon Andy Warhol. Donc c'est la star américaine représentée sous les traits de Greta Garbo. C'est Oncle Sam, évidemment, qu'on ne présente plus. Superman, ça permet aussi de faire un petit clin d'œil au comic et à la bande dessinée. Warhol, il a été très tenté d'aller vers là, mais finalement, c'était déjà un terrain qui était occupé, et notamment occupé par certains de ses pairs du pop art. Et donc, du coup, il n'a jamais franchi le pas, mais par contre, ça permet de tirer cette ficelle également. C'est la sorcière du magicien d'Oz, c'est le personnage de la femme noire comme dans Autant en emporte le vent qui est devenu iconique, c'est Audi Daudi qui a servi de modèle au personnage de Chucky, cette petite poupée qui fait affreusement peur, c'est Dracula, c'est Mickey, c'est le Père Noël et c'est ce qu'il a appelé Shadow qui est la dernière œuvre de cette série de 10 et qui en fait dans laquelle il se représente lui-même. Et donc voilà, en très peu d'images, et finalement, aujourd'hui, même pour nous qui sommes peut-être plus jeunes et qui n'avons pas connu le Warhol des années 70 ou 80, bah, quand on rentre dans cette salle et qu'on est confronté à ces portraits, on sait immédiatement ce que ça veut dire, on les reconnaît et on sait les inscrire dans cette mythologie des personnages américains.
Et on arrive dans la dernière salle de l'exposition, et c'est peut-être les œuvres les plus tardives, comme vous disiez.
Alors c'est un mélange, comme dans la pièce précédente, c'est un mélange de pièces des années 60, 70, 80. C'est une prolongation de ce questionnement autour du mythe américain, mais là plutôt en architecture, puisqu'on est confronté à des grands monuments de l'Amérique, l'Empire State Building, auquel Andy Warhol a consacré un film de 8 heures. Donc c'est un plan fixe de 8 heures sur le monument.
Oui, parce que là on dirait pas, mais c'est un film.
Tout à fait, c'est un film qui dure 8 heures. Alors là, on voit l'Empire State Building de jour, mais très rapidement ça bascule et on le voit de nuit. Et donc ça permet aussi de montrer que Warhol il a réalisé ce genre de film. Il a aussi fait un film qu'on ne présente pas dans l'exposition mais qui est assez connu, qui s'appelle Sleep, et dans lequel il représente pendant 5 heures un homme qui dort. Donc c'est vraiment en plus des screen tests une expression cinématographique qui est importante. Et donc on est face à l'Empire State Building, mais pas seulement, on a deux portraits en quelque sorte des Trump Tower. Et là l'anecdote raconte que les deux hommes se rencontrent, donc Donald Trump et Andy Warhol, dans un contexte non officiel, et que Warhol comprend que Trump lui passe une commande du portrait de ces deux tours. Et puis finalement, quand Warhol a terminé le travail et qu'il les présente, Trump n'est pas du tout satisfait du résultat et il finit par ne pas les acheter, ce qui a beaucoup déçu Warhol, parce que du coup, il n'a jamais été payé pour son travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que les Trump Towers, c'est devenu un emblème à New York. Et puis on termine l'exposition sur la Statue de la Liberté, qui est une figure hautement symbolique, puisque c'est un cadeau de la France aux États-Unis pour un anniversaire de la déclaration d'indépendance. Et ce qui est aussi amusant, c'est que Warhol, il aurait pu utiliser une image prise par lui-même de la Statue de la Liberté, ou même la représenter d'après nature. Enfin, il y avait mille et une manières de faire, et c'est pas ça, c'est pas cette option-là qu'il choisit. Il choisit de partir, encore une fois, d'un produit manufacturé, en l'occurrence une boîte de gâteaux. Alors vous voyez, en bas à gauche de l'œuvre, il y a deux drapeaux, un français et un américain, et puis l'écriture « Les bons biscuits Fabis ». Fabis qui était donc une marque de biscuits français. Et donc là, bah, voilà, pour lui, c'est la boucle est bouclée. C'est Warhol, chantre de la consommation, qui a représenté les marques, qui réutilise ce bien de consommation courante comme support et comme point de départ pour la représentation de la statue. Et puis c'était une manière aussi de terminer l'exposition sur cette note fraternelle, puisque aujourd'hui le contexte est assez agité, mais les relations franco-américaines, elles sont anciennes, et l'idée c'était aussi de pouvoir montrer que par le soft power, par la culture, finalement beaucoup de passerelles sont possibles, et cette statue de la liberté, ça en est l'emblème.
Alors évidemment, j'ai la question piège. Comme c'est 13 000 œuvres, c'est ça que vous disiez, Warhol
Au musée Warhol, ouais.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez choisi de ne pas montrer? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, bah ça serait intéressant, mais enfin, tant pis, quoi.
C'est difficile de répondre à cette question, puisqu'effectivement, 13 000 œuvres au musée Warhol, c'est vraiment un fonds considérable. Il y a beaucoup de choses. Et puis, quand on dit exposition Warhol, finalement, on n'a rien dit, et on peut en faire mille et une. Et c'est pour ça que pour nous c'est important de nous entourer de commissaires d'exposition, parce que ça permet d'apporter un regard, et en l'occurrence le regard d'Amber Morgan. Assez vite on est tombé d'accord sur le fait que nous, ce qu'on voulait, c'était montrer un Warhol que même ceux qui ne l'avaient jamais vu, même ceux qui ne le connaîtraient pas, pourraient comprendre et amener à découvrir à la fois le Warhol attendu, c'est-à-dire les Campbell Soup, les Brio Box, Coca-Cola, Marilyn, exactement, mais aussi d'expliquer le contexte, de montrer comment Warhol est devenu Warhol, et de pouvoir présenter, y compris à des personnes qui seraient très connaisseuses de son œuvre, des choses que peut-être ces personnes-là n'ont jamais vues. Et donc c'est vrai que choisir, c'est renoncer, et que pour en choisir 200, il a fallu en mettre d'autres de côté. Mais en tout cas, nous, notre parti pris pour cette expo, c'était vraiment rendre Warhol accessible à tout le monde, aux connaisseurs comme à ceux qui ne l'auraient jamais vu, puisque finalement des expositions Warhol en France, il n'y en a pas beaucoup.
C'est étonnant. Alors sur le plan pratico-pratique, quelles sont les médiations que vous proposez jusqu'au 24 janvier, qu'est-ce que vous proposez?
L'exposition est ouverte jusqu'au 24 janvier 2027 et on va proposer beaucoup de choses différentes. Alors évidemment, les visites commentées qui sont quotidiennes. Vous pouvez, pour les individuels, réserver sur le site internet du Fonds Leclerc. Il y a aussi des visites organisées pour les groupes, pour les scolaires. On est presque complet déjà. Et puis, on va réaliser beaucoup d'événements. On va faire des conférences, des tables rondes. On va faire une nocturne, comme traditionnellement désormais, le dernier samedi de l'exposition, donc le 23 janvier. Et puis à chaque fois, ce sera l'occasion de tirer des fils. Quand on va présenter ici des performances, ce sera l'occasion de tirer des fils avec l'exposition, d'élargir un peu le prisme et de se poser d'autres questions. Idem pour les conférences, les tables rondes. Donc il y a beaucoup de rendez-vous à venir. Et voilà, on vous invite à venir et revenir voir cette exposition avant le 24 janvier.
L'exposition Warhol au Fonds Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau, c'est jusqu'au 24 janvier 2027. Cette première partie de nos flâneries se termine. Transistor vous proposera d'autres idées de visite demain à midi. Mais l'émission continue et promis, vous aurez du chocolat.